C'est Chantal Pacteau et Sylvie Joussomme du CNRS, respectivement directrice adjointe et directrice GIS Climat Environnement Société, qui vont introduire. Ou tu es toute seule, Chantal?
Oui, tu es
toute seule, donc Chantal Pacteau, directrice adjointe du GIS Climat Environnement Société, pour l'ouverture et l'introduction de ce symposium.
Je ne vous expliquerai pas, rassurez-vous, ce que c'est le GIS Climat Environnement Société. Même les collègues scientifiques ont du mal à comprendre. Sylvie Joussomme est actuellement à Boulder, au Colorado. Donc, nous avons fait ensemble cette présentation et c'est moi qui la porte. Donc, bonjour d'abord. Pourquoi les scientifiques qui font de la recherche dite fondamentale veulent-ils s'impliquer dans la cité? Pourquoi on est là aujourd'hui? Pourquoi on a voulu faire ça? Parce que les sciences sont liées à la société par le biais des institutions dans lesquelles elles se font et que les chercheurs ont des responsabilités spécifiques qui découlent de leur savoir. Parce que les sciences de l'environnement sont aujourd'hui suffisamment matures pour être au développement durable ce que la physique a été à la maîtrise de l'énergie ou ce que la biologie a été à la médecine. Parce que, également, ces sciences mettent en œuvre une pensée complexe pour comprendre le réel et ses potentialités. Et cette approche est absolument indispensable pour passer du mode de production minier actuel, je prends et je me fiche de ce qui se passe après, à un mode de production soutenable, qui est plus circulaire. Et aussi, on arrive à la métropole, là, parce que l'échelle territoriale, ici métropolitaine, nous paraît être l'échelle opérationnelle pertinente à laquelle travailler. La recherche peut offrir des modes de pensée et outils nouveaux et efficaces, d'une part pour gérer l'environnement dans le contexte des changements globaux, dont le changement climatique est un des multiplicateurs, et d'autre part pour accompagner la transition écologique dans toutes ses dimensions, tant physiques et biologiques que cognitives, économiques, sociales, anthropologiques, juridiques, d'aménagement, etc., etc. J'ai oublié certainement des disciplines, mais vous m'excuserez, s'il vous plaît. Jamais la recherche ne prédira les dynamiques du futur, mais elle peut concevoir des scénarios pour aider la décision en pointant le potentiel, les limites et les risques de chacune des stratégies envisagées. Elle peut aider à prévoir l'impact d'une action ou d'une non-action sur le devenir de nos sociétés. Les pratiques actuelles en matière de développement durable sont fortement empreintes d'empirisme, ce qui n'est absolument pas un problème, mais ces pratiques bénéficieraient d'une meilleure valorisation des concepts et modèles élaborés par les scientifiques de tous bords. La crise de l'environnement exige la mise en œuvre de stratégies d'atténuation, par exemple réduire les gaz à effet de serre, c'est-à-dire on travaille sur les causes. Vous avez vu ce qu'il en est des négociations internationales qui sont au point mort. Donc, il faut faire d'autres stratégies. Donc, il y a la réhabilitation, mais elle est possible seulement dans certains cas, et surtout d'adaptation, quand il s'agit de créer des réponses pertinentes à des situations nouvelles. Or, une des situations nouvelles du XXIe siècle, c'est que le siècle est devenu urbain. Nous sommes désormais entrés dans le siècle de la ville. Là, ce qui était dit dans une des premières conférences mondiales sur la ville et le changement global. Donc, nous sommes désormais entrés dans le siècle de la ville. La taille, la forme, la structure et les fonctions des milieux urbains et les trajectoires de leur croissance future sont des éléments critiques de leur transition vers la durabilité. L'urbanisation est une composante majeure du changement global dans le même temps qu'elle est menacée par lui. Et les pays riches ne sont pas moins vulnérables que les pays en développement. Leurs villes ne sont pas moins épargnées. Rappelez-vous la catastrophe provoquée par l'ouragan Katrina en août 2005, l'exemple type d'un assemblage inextricable de faits sociaux et de tas de nature qui a mené à la destruction de la Nouvelle-Orléans. Pratiques d'aménagement aberrantes, inégalités sociales exacerbées, non prise en compte des processus régulateurs qui existaient depuis des années, défaillance en chaîne du système d'alerte et des secours au moment de la catastrophe. Et le risque ne vient pas seulement d'événements extrêmes dont les conséquences sont absolument imprévisibles quand l'intensité dépasse les fourchettes calculées statistiquement. Nos villes sont exposées à des risques exacerbés à plus bas bruit par le changement global. Dégradation de la qualité de l'air, avec l'augmentation des particules en suspension et des pollens, de la qualité des eaux, modification de l'activité microbienne, débordement prolongé des réseaux d'eau usée en cas de tempête particulièrement violente, fragilisation de l'habitat, ça à Paris on connaît, hein. Mouvement de rétraction des sols affectant les fondations du bâti. Îlots de chaleur, on connaît aussi, et de manière générale, perte de confort avec l'effet cocotte minute d'habitations qui ne sont pas prévues pour des chaleurs très importantes. La canicule de 2003 a montré à quel point ces vagues de chaleur de longue durée, accompagnées d'une pollution atmosphérique élevée et d'un déficit hydrique important et précoce, peuvent avoir des effets désastreux sur des organismes fragiles. Je vous rappelle qu'il n'y avait pas seulement les personnes âgées, il y avait aussi les bébés, il y avait aussi les personnes souffrant de problèmes pulmonaires qui ont été touchées. Et il y a eu des vies qui auraient pu être épargnées. Il faut que nos villes restent vivables, et vivables pour tous, et elles le resteront que si elles deviennent réellement durables. Beaucoup d'entre nous parlent de soutenable pour dire durable, ça peut être durable, des choses pas bien qui durent, donc nous c'est soutenable, c'est sustainable en anglais. Rendre la ville durable, c'est assurer des pilotages multi-objectifs et intégratifs, ne jamais rester bloqué sur une seule entrée, éviter les impasses, c'est contrôler les effets collatéraux indésirables des actions, comme par exemple mettre en place des dispositifs de lutte contre l'augmentation de la rente foncière qui accompagne chaque nouvel aménagement. À Paris, on est bien placé pour le savoir aussi. C'est assurer un fonctionnement et des services stables, c'est-à-dire maintenir la résistance aux aléas de tout genre. C'est la rendre résiliente, c'est-à-dire capable d'encaisser les chocs et d'évoluer à chaque fois vers de nouveaux équilibres. Parmi les stratégies destinées à diminuer la vulnérabilité et accroître la résilience des métropoles, la réintroduction des services qu'offre la nature apparaît aujourd'hui comme une source d'innovation et d'intelligence systémique. Par exemple, on peut planter des arbres pour séquestrer le carbone, utiliser des assemblages végétaux pour épurer les eaux, végétaliser des toits pour isoler les bâtiments, limiter ainsi les apports artificiels d'énergie. Encore ne faut-il ni réifier la nature ni ses services. La nature n'est ni bonne ni mauvaise, elle est. Son utilisation n'est pas une ingénierie douce. Tout comme l'ingénierie issue de la révolution industrielle, elle a ses desservices. On a souvent évoqué les enjeux sanitaires, augmentation des allergies au pollen par exemple, arrivée d'animaux réservoirs pour des maladies vectorielles, ou encore, et ça c'est un problème très grave, c'est le coût élevé d'entretien si on ne prend pas les bonnes décisions. La nature nous aide aussi à repenser la métropole. Les processus qui régissent la métropole sont interconnectés, ne connaissent ni les catégories habituelles à partir desquelles la ville est pensée et gérée, ni les limites administratives. Condition indispensable de sa durabilité, il s'agit de penser la ville reconnectée à ses territoires. Et cette réflexion ne peut faire l'économie d'une vision métropolitaine multi-échelle. J'en arrive à ma conclusion. Les questions qui viennent d'être effleurées requiert un savoir à la fois intégré et prédictif, une écologie et des processus d'aménagement savants qui ne sont encore que peu disponibles et qui réclament un formidable essor des connaissances nouvelles. Ces questions sont un moteur pour la recherche et abattent les frontières entre recherche dite fondamentale, théorique, conceptualisée et recherche dite appliquée. Elles exigent de penser la singularité. Il n'y a pas une solution uniforme pour tous les types de villes, pour tous les quartiers, etc. Elles exigent aussi de penser la localité, la temporalité des propositions métropolitaines. On voit tout l'intérêt de co-construire entre scientifiques, institutions politiques et administratives, professionnels et citoyens, des savoirs, des outils, des méthodes qui prennent en compte l'irréductibilité des incertitudes, on ne pourra jamais prévoir ce qui va se passer, pour proposer des voies du vivre ensemble, durables, justes, et je dirais également aimables, agréables. Aux décideurs de prendre les décisions, n'est-ce pas Fabienne, en dialogue sur la base d'idées claires, de connaissances et d'expériences les mieux étayées possibles. Quant à ma communauté, à savoir donc les chercheurs, elle a tout à gagner à travailler en collaboration avec celles et ceux qui ont un rapport direct avec le quotidien. Cette collaboration peut enrichir leur analyse, donner des angles d'approche inattendus à leurs questionnements, tout en apportant de la pertinence et du vécu à leurs recherches. Le rendez-vous d'aujourd'hui témoigne du mouvement actuel vers cette mise en œuvre d'une réflexion partagée sur les enjeux métropolitains ambitieux qui vont bien au-delà de la peinture verte de la ville. Le vivre ensemble et la justice sociale en sont des pierres angulaires. D'autres rendez-vous vont suivre où nous serons. Vous aurez les personnes qui sont en charge de ces autres rendez-vous dans la salle. Il y en a une qui est bloquée dans le TGV, mais tout le monde arrivera. Les documents sont sur la table là-bas. Alors, par exemple, le 3 décembre aura lieu un colloque ici même sur les trames vertes qui réunira politiques et scientifiques. En septembre 2013 aura lieu le sommet mondial des écocités à Nantes et on nous a invités à y participer avec nos problématiques d'aujourd'hui. Et par ailleurs, cette semaine, ici à la mairie de Paris, à la semaine du plan climat, et demain, il y aura aussi une conférence, et nous avons articulé nos interventions de manière à avoir le panorama le plus important possible et à ne pas faire de doublons et de montrer cette volonté que l'on a de travailler ensemble. Donc je vous invite à approfondir les débats d'aujourd'hui en nous retrouvant dans ces différents rendez-vous, et je vous remercie.